VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 10 juin 2016. À la une ce soir.
Centrafrique, les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique centrale se réunissent pour discuter de la sécurité dans la région.
Tous nos États sont concernés, donc nous devrions mutualiser nos efforts pour pouvoir tacler le terrorisme dans notre sous-région. Nous devrions être solidaires.
Au Burundi, le médiateur rencontre la plateforme de l'opposition Sénared à Bruxelles.
Fin du conclave de l'opposition congolaise en Belgique par la formation d'un nouveau rassemblement contre Kabila.
Arrestation en Ouganda d'au moins une trentaine de personnes pour complot contre le gouvernement de Yoweri Museveni.
Début aux États-Unis des funérailles de Mohamed Ali. Elles sont en direct sur voafrique.com.
Nous aurons l'économie et les sports juste après le journal.
En RCA, clôture ce vendredi des travaux de la 42e réunion ministérielle du Comité consultatif des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. 4 jours durant, à Bangui, les représentants des 11 pays membres ont statué sur les défis sécuritaires de la sous-région. Freeman Sipila.
Pour les 6 prochains mois, la présidence du comité de l'UNSEC sera assurée par la République centrafricaine qui succède ainsi au Gabon. Les participants ont sorti une déclaration dite « Déclaration de Bangui ». Dans ce document lu par Alfred Mungara Mounsosi, ministre gabonais des Affaires étrangères, le comité a noté avec satisfaction l'amélioration du climat sécuritaire en Centrafrique, saluant le retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan sous-régional, des stratégies ont été adoptées pour lutter contre les groupes armés et mouvements terroristes comme Boko Haram et l'armée de résistance du Seigneur. Nicolas Nzoyoum, ambassadeur du Cameroun au Centrafrique, appelle tous les États membres à une union sacrée autour de la lutte contre le terrorisme.
Nous attendons donc de cette présence que nous puissions booster, rassembler, amener tous les États membres à mutualiser nos efforts dans cette lutte contre le terrorisme qui est une pieuvre. Vous coupez la tête ici et réapparaît de l'autre côté et tous nos États sont concernés, donc nous devrions mutualiser nos efforts pour pouvoir tacler le terrorisme dans notre sous-région. Nous devrions être solidaires et nous tenir ensemble dans cette lutte.
Les travaux de cette 42e réunion ministérielle de l'UNSEC se sont tenus du 6 au 10 juin à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Réaction au conclave de l'opposition congolaise en Belgique. Le camp du président Joseph Kabila rejette les résolutions adoptées hier. Il faut dire que l'opposition exige notamment le départ du chef de l'État à la fin de l'année. La coalition de la majorité présidentielle parle d'une tentative de coup d'État et d'un complot contre la nation.
Amnesty International accuse des soldats nigériens d'avoir tué au moins 17 personnes lors d'une récente manifestation marquant le 49e anniversaire du début de la guerre civile du Biafra. L'armée a rejeté ces accusations, Claire Morin-Gibourg.
L'ONG rapporte que la tuerie s'est déroulée la nuit précédant la marche commémorative. L'IPOD, ou Mouvement Peuple Indigène du Biafra, affirme de son côté qu'au moins 50 de ses partisans ont été tués lors de raids de l'armée nigériane, notamment au sein d'une église où dormaient les sympathisants. Au cours de visites dans des hôpitaux et dans des morgues, Amnesty a établi un bilan de 17 morts et 50 blessés à Onitsha. Mais le chiffre réel est sans doute plus important, les corps ayant pu être emmenés ailleurs par l'armée. Certains des morts et des blessés ont été atteints par balles dans le dos, ce qui indique qu'ils étaient en train de fuir quand ils ont été touchés, précise Amnesty. L'IPOB a organisé de nombreuses manifestations à travers le sud-est du Nigeria depuis l'arrestation de son chef, Nnamdi Kanu, en octobre pour trahison. Il est toujours en détention dans l'attente d'un procès. La guerre civile du Biafra avait fait près d'un million de morts en 3 ans.
Vague d'arrestations en Ouganda, au moins 30 personnes ont été interpellées, dont un député de l'opposition et des militaires. Elles sont accusées d'avoir fomenté un complot pour renverser le gouvernement.
15 personnes ont également été arrêtées au Zimbabwe, dont un journaliste et le frère d'un militant des droits de l'homme portés disparus. Les interpellations ont eu lieu lors d'une manifestation contre le président Robert Mugabe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale, un enterrement hors norme pour un homme hors norme ce vendredi. Louisville célèbre une dernière fois son enfant, Mohamed Ali. Un corbillard transportant la dépouille de Mohamed Ali a traversé la ville où des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur les 30 km du trajet. On fait le point avec vous, Tatiana Monceau.
La procession est passée devant la maison où celui qui s'appelait alors Cassius Clay a grandi. Le boxeur de légende Mohamed Ali a accompli son dernier voyage, celui vers sa tombe, dans une procession mêlant émotion, gloire et ferveur universelle. La procession s'est achevée au cimetière de Cave Hill. Le cortège funéraire d'une vingtaine de limousines transportait notamment les nombreux enfants et petits-enfants de l'ancien poids lourd, ainsi que des personnalités choisies pour porter son cercueil. Le comédien Will Smith et les anciens champions du monde de boxe, Lennox Lewis et Mike Tyson. Alors qu'il devait assister aux funérailles de Mohamed Ali, Recep Tayyip Erdogan a décidé d'écourter son séjour à Louisville en un aller-retour express pour le président turc, vexé parce qu'il s'est vu refuser de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie funèbre. La famille du légendaire boxeur a refusé en effet de politiser ses obsèques. Dans une ultime cérémonie d'adieu, l'ancien président Bill Clinton fera partie des orateurs, ainsi que le comédien Billy Crystal pour l'éloge funèbre. Distribués gratuitement, les 15 000 billets d'accès à cet événement se sont envolés en une demi-heure. Et une fois la parenthèse refermée sur cet ultime hommage à Mohamed Ali, Louisville et ses 600 000 habitants retrouveront leur calme et leurs habitudes.
Merci Tatiana Mousseau. Vous pouvez suivre en direct le déroulement des funérailles de Mohamed Ali.
C'est sur voafrique.com. Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont pressés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est pour la prière du premier vendredi de Ramadan, malgré de nouvelles restrictions de mouvement annoncées par Israël après un attentat meurtrier. Nathalie Barge.
Deux jours après l'attaque la plus meurtrière commise par des Palestiniens contre des Israéliens depuis des mois, Israël a annoncé ce vendredi le bouclage des territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit. Il y a toutefois deux exceptions, pour les urgences humanitaires et pour les fidèles qui se rendaient vendredi à l'esplanade des mosquées. Mais les autorités ont imposé des limites. Les hommes en dessous d'un certain âge étaient interdits de franchir les postes de contrôle, tandis que les femmes et les enfants pouvaient passer sans restriction. L'État hébreu n'a pas voulu trop serrer la vis à un moment délicat où les Palestiniens célèbrent le mois du jeûne musulman et accordent beaucoup d'importance à la possibilité d'aller prier sur le troisième lieu saint de l'islam, situé à Jérusalem-Est. Personne ne sortait cependant de la bande de Gaza sous blocus permanent imposé par Israël.
En Syrie, pour la première fois depuis 4 ans, un convoi de nourriture est arrivé à Daraya, ville assiégée par les forces pro-régime, 10 km au sud-ouest de Damas. Cependant, signale l'AFP, d'intenses raids aériens de l'armée de Bachar al-Assad ont empêché la distribution de vivres. Il y a eu un largage intensif de barils d'explosifs qui ont touché la ville de façon aveugle depuis 6h GMT, a déclaré un responsable local.
L'Arabie saoudite continue de faire pression pour que la coalition militaire qu'elle dirige au Yémen soit enlevée d'une liste noire de pays violant les droits des enfants. La France s'est mêlée de la partie aujourd'hui, promettant par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, de tout faire pour calmer la tension.
Un couple de Pakistanais a été tué aujourd'hui à Lahore pour s'être marié sans le consentement des parents, ont annoncé les autorités locales. Saba Ashraf, 18 ans, et Karamat Ali, 35 ans, s'étaient mariés il y a un an et demi sans avoir obtenu au préalable l'accord de leur père. Voilà pour le journal. On passe au journal de l'euro. On passe à présent au journal de l'euro avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
L'Euro 2016 débute donc ce vendredi.
Et oui, coup d'envoi 19h, temps universel au Stade de France pour ce match d'ouverture entre le pays organisateur, la France et la Roumanie. Les Bleus sont attendus devant leur public pour briller malgré les polémiques Karim Benzema ou Hatem Ben Arfa absents. Écoutez ce que disait le sélectionneur Didier Deschamps hier en conférence de presse.
Notre approche du match, on s'est préparé depuis 2 ans pour ce 10 juin. Donc, commencer cette compétition et ce match avec beaucoup d'envie, de générosité, en gardant toujours la lucidité. Mais je ne vais pas dire qu'il faut banaliser ce premier match, mais aussi quelque chose qui est indispensable au haut niveau, d'avoir cette crainte, cette petite boule au ventre, d'avoir les mâchoires serrées avant de rentrer sur le terrain, parce qu'on n'a rien fait pour le moment et on doit les chercher. Et on doit se mettre dans cet état d'esprit-là, sans calcul, sans pression, sans fébrilité.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
On joue aussi demain, Nicolas.
Dans l'autre rencontre du groupe A, samedi, l'Albanie et la Suisse seront opposées à Lens. Dans le groupe B, le choc du jour verra s'affronter l'Angleterre et la Russie et le Pays de Galles face à la Slovénie. Les détails avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
Les fans de football sont gâtés pour cette deuxième journée de compétition. 3 matchs de haut niveau avec, dès le début de l'après-midi, Albanie-Suisse à Lens, dans le nord de la France. La rencontre oppose les 2 équipes du groupe A, le groupe des Bleus. Les Suisses sont favoris et espèrent décrocher les premiers points qui les mèneront vers une qualification en 8e de finale. Juste après ce match, pas de répit. Le Pays de Galles de Gareth Bale défie la Slovaquie, emmené par Marek Hamšík. Ce sera à Bordeaux. Une rencontre somme toute assez équilibrée, même si le collectif slovaque a quelques atouts à faire valoir offensivement. C'est le premier match du groupe B. Un groupe où on retrouve également l'Angleterre et la Russie. C'est le choc de la journée. Anglais et Russes se retrouveront à Marseille dans le stade Vélodrome qui devrait être bouillant. Léger avantage à l'Angleterre et son secteur offensif bien fourni. Harry Kane, Jamie Vardy et bien sûr le capitaine Wayne Rooney sont très attendus puisque certains observateurs voient la sélection de Roy Hodgson aller très loin dans la compétition. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Et Christian en parlait, le choc du groupe B à Marseille entre les Anglais et les Russes. Une affiche qui a inspiré notre consultant football, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouet.
Bonjour. Samedi soir à Marseille, l'Angleterre rencontre la Russie dans une affiche qui aurait constitué un sommet européen dans les années 60 à 90, lorsque la Russie s'appelait encore l'URSS. Depuis lors, les Russes ont perdu l'Ukraine, le berceau du football de l'ère soviétique, et l'Angleterre n'a plus atteint le cap des quarts de finale d'une grande compétition après le mondial italien et l'Euro 96 joué à la maison. Quand toujours venu du froid, leur dernier coup d'éclat est la demi-finale perdue face au futur champion espagnol en 2008. C'est donc 2 équipes en quête du rachat que le public va découvrir dans le second match de la poule B pour la première sortie. La Russie, qui en plus a perdu son meneur de jeu Djogaïev, va plus que jamais compter sur son collectif traditionnel et la solidarité de groupe, là où l'Angleterre a aligné une flopée de jeunes joueurs portés vers l'attaque. Nul n'a le droit à l'erreur, ni l'Angleterre de Rooney, qui doit mériter son statut de berceau du football tout court, ni la Russie venue pour préparer sa Coupe du Monde 2018. Alors, ce n'est pas l'envie qui manquera aux 22 acteurs. À bientôt.
Retrouvez toutes les infos sur l'Euro 2016 sur notre site internet voaafrique.com. Et Nicolas, une dernière info football au Bénin.
Oui, la fédération a un nouveau président, Anjorin Moucharaf. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Élisée Oumpatine.
Il n'y avait pas de suspense. Anjorin Moucharaf a été porté à la tête de la Fédération béninoise de football pour les 4 prochaines années. C'était ce matin à Cotonou, en dépit de l'ordonnance prise par le tribunal de première instance de Porto-Novo interdisant l'organisation du congrès. Les délégués conduits par le président du CONOR, appuyés par la CAF et la FIFA, ont procédé par acclamation à l'élection de Anjorin Moucharaf comme président de la FBF. Très heureux, l'homme en promet de changer et de permettre d'ailleurs au Bénin de se qualifier pour la prochaine CAN 2017. Anjorin Moucharaf.
Je suis très fier d'être béninois. Je puis vous dire aujourd'hui, Anjorin 1, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est Anjorin 2. Je vous rassure que vous serez très fiers d'avoir eu un président et que nous allons inviter tous nos collègues, les gens qui sont mécontents. On va s'asseoir autour d'un forum. Nous allons élaborer la nouvelle règle du jeu, évaluer, revoir les statuts si possible pour que tous, chacun se sente concerné.
Boycon, Élisée Rumpati, VOA Africa.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Morgane Diriec et Chérubin Dorcil, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le géant des télécommunications sud-africain MTN a annoncé un accord avec le gouvernement nigérian pour s'acquitter d'une amende de 1,7 milliard de dollars sur 3 ans. L'opérateur avait écopé d'une amende de 3,9 milliards de dollars pour n'avoir pas respecté en 2015 l'ordre de désactiver en une semaine toutes les cartes SIM anonymes. Avant cette mesure, il était possible d'acheter une puce sans présenter de papier d'identité. Les douanes ivoiriennes ont annoncé avoir saisi plus de 150 kilos de défense d'éléphants en provenance du Nigeria et qui ont transité par le Ghana. Le stock a été saisi ce vendredi sur l'axe Abouasso-Bonoua. Deux trafiquants ont été arrêtés et conduits devant les tribunaux pour trafic illicite d'ivoire, interdit depuis 1989. Plus de 35 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique. Les cours du cacao se sont stabilisés cette semaine, consolidant leurs gains à Londres et progressant légèrement plus à New York, sous l'effet notamment de l'affaiblissement du dollar. Ils profitaient de nouvelles prévisions d'une récolte en baisse pour la saison en cours, due notamment à une météo peu clémente au cours des 4 premiers mois de l'année, avec de forts vents de l'Harmattan en Côte d'Ivoire et un manque de précipitations.
Rencontre aujourd'hui et demain à Bruxelles entre l'opposition burundaise en exil et l'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa sur le dialogue inter-burundais. La plateforme Senared Giriteka a boycotté la première étape des consultations tenues à Arusha en Tanzanie du 21 au 24 mai dernier. Elle exigeait une invitation sous la bannière de la plateforme et dénonçait aussi l'immixtion du régime de Bujumbura dans l'organisation des consultations. Pour savoir les revendications soumises au médiateur tanzanien, Eric Manirakiza a joint dans la capitale belge le porte-parole de Senared Giriteka, Pancras Chimhaye.
Le médiateur est venu écouter les parties qui n'étaient pas présentes à Arusha. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il est venu les écouter. Nous lui avons parlé, nous lui avons soumis nos suggestions et il a promis qu'il va voir le président Museveni pour lui faire part de nos suggestions.
C'est quoi concrètement vos revendications?
Il y a des revendications qui ne peuvent qu'être discutées sur une table, c'est-à-dire le fond, l'agenda des négociations. Mais sinon, vous savez très bien qu'il y avait cette préoccupation d'être invité comme Senared pour qu'on ne puisse pas retomber sur nos faux pas de la session dernière. Il y a aussi la problématique de l'interférence du secrétaire général de l'African Community. Et c'est principalement les deux préoccupations qui tenaient tant à Senared que nous avons soumises aux facilitateurs.
Et quelle a été sa réaction? Ce sont des questions qui sont levées aujourd'hui.
Bon, la réaction et le traitement de ce genre de dossier, de ce genre de situation, de négociation, c'est beaucoup plus une gestion interne, donc il serait prématuré de publier la position du facilitateur parce qu'il a promis qu'il allait en parler, en discuter de vive voix avec le médiateur.
Et qu'est-ce que lui, en tant que médiateur, attend de vous?
Il attend du Senared qu'on lui facilite la tâche, il attend du Senared qu'on contribue à ce qu'on puisse trouver une solution négociée.
Est-ce que sur la question de l'agenda, du timing, des délais, est-ce qu'il y a-t-il des délais qui sont fixés pour conclure ce dialogue inter-burundais qui va commencer?
Bon, il serait prématuré de fixer le timing parce que maintenant il est d'abord dans une étape de consultation de toutes les parties. Donc la fixation du timing, c'est quand vous avez déjà été en agenda, c'est quand vous avez déjà précisé le sujet à traiter. Et là, le timing, c'est presque la fin de toute la charpente.
Or maintenant, on est encore au niveau de l'élaboration de la charpente du négociation.
On écoutait Pancras Timhai, joint à Bruxelles.
Cap sur le Tchad, les fidèles musulmans observent le jeûne du Ramadan depuis lundi. Et c'est pendant ce mois saint que les prix des denrées et de première nécessité passent du simple au double. Correspondance, André Konmajingar.
Ici, nous sommes au marché central de la capitale. Un marché pris d'assaut tous les jours à partir de 8 heures, heure locale, par les commerçants et petits vendeurs de denrées de première nécessité. Malgré que certains produits alimentaires, notamment les crudités, soient étalés à même le sol, les clients se bousculent pour s'en procurer afin d'assurer leur pitance quotidienne. Mais ils sont surpris de constater la hausse vertigineuse des prix en ce mois de Ramadan.
Les choses qu'on a achetées avant, 2000, 3000, maintenant les gens parlent. 5 000, 6 000, 7 000, on ne se retrouve même pas.
Surtout sucre, arachide et autres, tout a augmenté. Quand tu poses la question maintenant, ils disent que c'est Ramadan. Et comment faire, même on ne sait pas.
Pour le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda El Hadji Adam, la spéculation des prix des produits alimentaires pendant la période de Ramadan n'est pas propre au Tchad.
Les fidèles musulmans, au lieu d'adopter un comportement de privation de la consommation, au contraire, profitent de cette période pour tripler, quadripler leur budget de consommation. Dès que la première semaine du mois de Ramadan est dépassée, la deuxième semaine, les prix se stabilisent. Donc aujourd'hui, ceux qui vont acheter à la deuxième semaine du mois de Ramadan, les prix vont se stabiliser. Donc c'est un phénomène qui n'est pas propre au Tchad.
Comme le malheur ne vient jamais seul, c'est pendant cette période que le gaz butane de 6 kg subventionné par l'État tchadien se raréfie dans les magasins de revendeurs. Selon les marketeurs, l'État n'a pas payé sa subvention depuis 8 mois, laquelle subvention est estimé à environ 8 milliards de francs CFA. Quelques revendeurs qui ont fait le stock font de la surenchère.
3 jours, on est en train de souffrir avec notre carême comme ça. 5 000 par an, trop.
Avant de vivre, il fallait que dans notre kiff. À quoi moi, je suis là. Chaque période de Ramadan, là, c'est un moment consacré à la prière. Donc, normalement, ils doivent réduire les prix.
Le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingam Nayel Nelly Versinis, s'insurge contre les commerçants voreux qui continuent à s'enrichir sur le dos des consommateurs en imposant de façon exagérée les prix des denrées de première nécessité, dont le gaz butane. Il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités.
Le collectif tchadien contre la vie chère interpelle vigoureusement au pouvoir public de cesser avec son attitude partisane et complice face à l'incivisme caractérisé des commerçants et de s'assumer en faisant restaurer son autorité pour cette fois-ci.
Contacté par VOA Afrique, les responsables de la direction de la concurrence et de contrôle des prix du ministère du Commerce opposent un refus poli. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndiamena au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Nous partons maintenant au Togo. Chaque premier samedi du mois, des jeunes entrepreneurs du secteur agricole apportent leurs produits pour les vendre directement aux consommateurs togolais. Le marché des paysans, qui ressemble à une foire, propose aussi bien des produits frais que des produits transformés localement. Notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, s'est rendue au marché. Reportage.
J'ai pris les légumes, j'ai pris les œufs naturels, j'ai pris un peu de tout. Hein.
Tout comme cette Togolaise, elles étaient environ 500 personnes à venir faire leurs courses ce samedi 4 juin au marché des paysans. Un concept qui séduit visiblement.
Il faudrait vraiment, vraiment encourager cette initiative qui peut être démultipliée et plus souvent que le premier samedi du mois.
C'est une bonne initiative. Ça nous aide à prendre des produits bio qui ne sont pas aussi chers que ça. Ici, au moins, c'est les provenances. Alors que dans les supermarchés, on prend un peu de n'importe quoi. Et après, ce sont des problèmes de santé qui suivent.
Assez intéressant. C'est un concept qui prend en compte tout ce qui est produits locaux, mais également produits frais. Les maraîchers, des œufs. Donc, c'est un beau projet.
Chaque premier samedi du mois, la population de Lomé peut aller à la rencontre des agriculteurs et autres transformateurs de produits locaux. Le marché des paysans veut à la fois faire la promotion des produits agricoles togolais, mais aussi sensibiliser la population sur une alimentation saine. Aimée Abratenou, promotrice du marché des paysans.
On a de plus en plus de producteurs, de jeunes entrepreneurs qui transforment les matières premières agricoles en de très très bons produits naturels et fabriqués localement. Mais ces personnes manquent de visibilité. Alors le marché des paysans, c'est de faire découvrir ces produits naturels et faire la promotion pour pouvoir accompagner les consommateurs à les aimer et à les consommer pour une meilleure santé.
Le marché des paysans a une exigence dont nous parle Léo Langer du comité d'organisation.
Il y a vraiment la valeur écologique qui est intrinsèque au marché paysan. C'est-à-dire qu'ici, les produits que vous retrouverez sont issus au maximum de l'agroécologie. À savoir qu'on ne peut pas vraiment parler de bio encore parce qu'il n'existe pas encore de label officiel au Togo et un cadre législatif pour tous ces produits. Néanmoins, les producteurs avec lesquels on travaille se sont engagés à ne pas utiliser de pesticides, pas d'engrais chimiques. Et donc, on a ici des produits qui sont bons pour la santé.
De la terre à l'assiette ou encore la traçabilité des produits sont des arguments qui motivent Solange Fieti à ne pas rater le rendez-vous du marché des paysans.
Venir s'approvisionner ici parce que c'est des choses de chez nous, transformées chez nous de façon plus saine. Ça nous facilite la tâche et au même moment, nous contrôlons plus ce que nous mangeons, nous savons plus ce que c'est et notre santé s'en porte mieux.
Sur le site, on peut trouver toutes sortes de fruits et légumes, des œufs, des champignons, du chocolat et des liqueurs made in Togo. Kailasson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Le Burkina Faso, réalisant qu'il filait du mauvais coton OGM, les termes mêmes de notre correspondant sur place, a opté de l'abandonner pour le coton conventionnel. Ainsi, en prélude à la campagne qui va s'ouvrir, Société des fibres textiles du Burkina, la Sofitex, organisait des forats avec des forums, avec les cotonoculteurs préoccupés par ce retour au coton conventionnel. Qu'en est-il sorti? Reportage de Zoumana Wonogo.
Après l'annonce de l'abandon du coton OGM, la Sofitex, Société des fibres textiles du Burkina, est allée à la rencontre des cotonculteurs, histoire de savoir si la mayonnaise du coton conventionnel va prendre. Bilan des rencontres avec les conseillers techniques, Aboubakar Sey.
Ce sont 21 équipes qui ont sillonné 228 villages pour échanger à bâton rompu avec 20 615 producteurs provenant de 6043 groupements de producteurs de coton GPC. Les préoccupations phare ressortie lors de ces forats se résume à ce qui suit. La mise en place à temps des intrants agricoles, la disponibilité à temps de la semence en quantité et en qualité, ainsi que la construction de stocks tampons de semences dans les villages. La protection phytosanitaire des cotonniers pour la mise à disposition à temps de bons produits insecticides et un besoin en formation sur ce thème d'actualité au regard du retour à 100% de coton conventionnel. Sur ce point, les producteurs ont marqué leur adhésion à l'objectif de production de 600 000 tonnes de coton graines consigné dans le plan d'action.
Nous avons voulu entendre de la bouche des cotonculteurs ce qu'ils pensent de ce retour au coton conventionnel. El Hadj Tayirou Fofana, le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Ceux qui ne pouvaient pas produire le conventionnel, c'est ceux, les personnes âgées, c'est eux qui ont l'inquiétude. Parce qu'actuellement, si tu n'as pas des jeunes qui peuvent traiter ça, toi, à ton âge, tu ne peux pas porter l'appareil. Les jours de traitement, c'est un appareil de 16 kilos que tu portes. C'est de deuxième âge, là. Il ne pouvait pas le faire. On en a fait tout le tour de Burkina. On a expliqué de A à Z aux producteurs. On n'a pas refusé totalement. Non, non, c'est un pas en arrière pour qu'ils visent. C'était de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la file soit longue. Seulement, si Monsanto a pu faire ça là et que nous gagnons nos bains, c'est un marché.
Pour le directeur général de la Sofitex, la vraie bataille est celle qui doit être menée contre les parasites du cotonnier. On écoute le DG Wilfried Yameogo.
Depuis le jour où on a dit qu'on fait du 100% conventionnel, les chenilles qui sont en terre là sont en train de jouir de ce qu'il y a à manger. Elles n'auront pas à manger, si Dieu le veut. Voilà, elles n'auront pas à manger parce que nous allons travailler. Voilà, nous allons nous appliquer sur la protection phytosanitaire pour ne pas leur donner de chance de détruire les exploitations cotonnières.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit
Peace, Africa.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui en a assuré la mise en onde, à la présentation Morgane Guériac et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.